Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Qui sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Cette émission vous est offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir et bonjour. Et merci d'être là. Alors, pour suivre cette émission Club de la Presse, l'opération de révision des listes électorales a effectivement démarré dans la région maritime hier lundi. Dans le Grand Lomé, une délégation de la dynamique pour la majorité du peuple DMP a effectué une tournée dans quelques centres pour s'assurer du bon déroulement de cette opération. La visite a conduit la délégation à l'EPP, à Gbalepédogan dans le Golfe 5, l'EPP Sovieppe toujours dans le Golfe 5 et l'EPP à Gouessobosito, à Gouenivé également. L'école primaire catholique Saint-Augustin d'Amoutievé dans le Golfe 4, l'école primaire publique de Bégar dans le Golfe 1, l'école primaire publique de Béclassou toujours dans le Golfe 1. À tous ces endroits, la délégation a constaté des pannes techniques, des machines, la lenteur des machines, des difficultés d'enrôler vite les citoyens et bien d'autres. Lundi, le ministre en charge de la formation à la citoyenneté, Paco Madrouvi, a exhorté l'opinion publique sur la nécessité de s'enrôler. Le ministère invite tous les citoyens et toutes les citoyennes concernées à se mobiliser massivement afin de faire vivre la démocratie participative et de contribuer à la tenue d'élections municipales libres, transparentes et inclusives, a-t-il indiqué. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse. Nous allons l'aborder et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité dans cette émission Club de la Presse de ce mardi 8 avril 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était aussi à TV assure la mise en onde. Jérôme Akoutia était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Coctoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Nous sommes toujours très heureux quand nous vous savons aussi très nombreux à nous suivre alors dans le monde entier à travers nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. De la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Mardi, ça rime bien avec Eric Pakoudjo-Johnson. Il fait bien partie alors de l'équipe de mardi. Bonjour Eric.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues, chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM, je vous salue.
Eric, j'espère que vous allez bien.
Tout va bien, merci.
Dieu merci et merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi.
Jean-Baptiste Atissot, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
On rend grâce à Dieu.
C'est l'essentiel. Oui. Rendons toujours grâce à Dieu.
Absolument.
C'est important.
C'est ça.
Alors je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Écho du Monde et vous le dites souvent que j'oublie votre site d'information, mais je ne l'oublie pas. C'est Concorde Diplomatique News.tg.
Absolument.
D'accord, Dieu merci. Cette fois-ci, j'ai fait vraiment l'exploit.
C'est ça, j'ai fait un effort.
Merci beaucoup. Alors nous sommes avec notre chroniqueur de chaque mardi. Et vous le connaissez très bien, c'est Claude Assiobotti. Claude, bonjour.
Bonjour.
Claude, j'espère que vous allez bien.
Ouais, il faut gérer, il faut gérer.
Il faut gérer. Comment on gère, Claude?
Oui, vous savez, lorsqu'on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas se suicider.
Hein, se suicider serait vraiment une lâcheté de notre part.
Voilà, voilà. Donc, il faut savoir dépasser certaines situations. Et savoir les contenir et espérer, c'est tout.
Il faut espérer.
Oui, il faut toujours
espérer. Contenir les situations et espérer.
Et espérer.
Je
voilà.
pense que c'est grand, hein, ce que vous venez alors de dire.
C'est très profond.
C'est profond aussi.
Et il a tout dit. Hein.
Justement. Alors Claude, c'est vrai que nous n'allons pas, enfin nous allons vous recevoir aujourd'hui non plus comme chroniqueur, mais comme écrivain pour clôturer ou mettre fin à notre thématique faits historiques et fiction dans la littérature togolaise. Et nous allons vous interroger sur vos propres livres de romans. Pêcheur de sirènes, Les frères siamois, une pièce de théâtre, La succession ou La voix des coulisses, un essai, L'amour et le sang qui sera l'objet alors de notre émission d'aujourd'hui. Claude, une question préliminaire. Les gens trouvent vos livres denses, sinon trop denses. Et vous le faites comment, Claude?
Oui, ça se dit que mes livres sont denses, trop denses. Mon problème, c'est pas un problème. Mon projet ou mon objectif, souvent, c'est de chercher la profondeur dans une écriture, dans un livre. Lorsque je l'écris, ce que je cherche d'abord, c'est la profondeur. Il faut faire réfléchir. Mais le vrai problème, ce n'est pas là. Le vrai problème, c'est au niveau du critique littéraire. C'est que nous en manquons dans le paysage littéraire togolais. Lorsque l'écrivain finit d'écrire, c'est aux autres de rendre le livre accessible. C'est le petit qui rend le livre accessible au public. Parce que la sensibilité d'un écrivain n'est pas une sensibilité moyenne. C'est pas une sensibilité moyenne. C'est que les gens sont habitués à l'écriture, à la Victor Hugo, Kavaralai, tout ça. C'est ça qui fait que...
C'est vrai que vous parlez de profondeur.
Oui.
Et quand vous écrivez avec cette profondeur qui amène les gens à réfléchir, est-ce que vous trouvez que c'est accessible quand même au paysage littéraire? Surtout ceux qui veulent lire, est-ce que c'est toujours accessible à eux?
Non, ceux qui veulent lire, ça dépend. C'est ce que je dis. Et lorsque nous-mêmes avons été à l'université, Il y a des livres que vous ne pouvez pas directement lire et comprendre. Il faut passer d'abord par la critique, par le critique. Le critique, c'est celui qui écrit la critique. C'est comme vous voulez adorer Dieu sans passer par un prêtre ou un pasteur, lorsque vous voulez lire. Les livres denses, on peut vous les rendre très faciles lorsque vous passez par l'intermédiaire d'un critique. Et au Togo, ça manque. C'est ça le problème. Et c'est quoi le critique? C'est celui qui rend accessible un livre qui est très difficile ou difficile et qui trouve derrière un livre apparemment simple une profondeur que vous ne pouvez pas trouver. L'exemple de l'étranger, si vous lisez ça, vous écrivez. Mais si on vous explique le fond philosophique, waouh! C'est ça le critique littéraire. Et c'est ça qui fait toute la littérature d'ailleurs. Mais ceux qui veulent débuter la littérature, enfin ceux qui veulent s'initier à la lecture, peuvent s'initier par des œuvres mineures, les œuvres courantes. Vous ne pouvez pas tout de suite aller à Kafka, ceci, Proust, Marcel Proust, Montaigne. Non. Il faut faut commencer d'abord par Camara là, et pas ceci, cela.
Accéder à la profondeur.
Voilà.
D'accord. Alors, Claude, un chapitre dans votre essai « L'amour et le sang » est intitulé « L'histoire de l'Afrique ». Vous y parlez de la colonisation, de la décolonisation, des régimes militaires africains, du machiavélisme africain et de l'État africain qui serait un État criminel. À propos des conséquences de la colonisation sur l'Afrique, vous dites « Et lorsque nos maîtres qui savent qu'ils ne sont pas blancs, comme neige, parlent des bienfaits de la colonisation, de l'État moderne, des moyens de communication rapide, etc. Ils ressemblent à des auteurs d'accidents de circulation qui se vantent d'avoir versé des primes d'assurance à leurs victimes. Dans la colonisation, rien n'a positivé. Claude, est-ce qu'il n'y a rien à positiver ? Là, c'est comme si nous sommes foutus.
En réalité, ce sera que, là, je vais vous partir de voix autorisées qui ont parlé de ce thème. Et par exemple, Césaire. Césaire dit à propos de la colonisation, je le cite, « L'Afrique s'ouvre fracassée à l'ensemencement des spermatozoïdes de viol. »
C'est fort, ça.
Voilà. Et Senghor, lui, parle de parturition hein, douloureuse. Et ça veut dire un accouchement douloureux. Les deux indexent une sorte d'accouchement de l'Afrique au monde moderne, au monde scientifique. Hein? Certes, l'enfant qui naît d'un viol n'est pas condamné à une malédiction. Hein? Ça s'entend. Mais l'auteur du viol ne peut pas se vanter du dédommagement qui résulte de son acte. Hein? Du dédommagement de son acte. Alors, et ni l'enfant ni la mère ne peuvent plus effacer, ne peut plus effacer le viol, mais il ne peut non plus refuser le dédommagement. C'est ce qu'on appelle un privilège paradoxal. Par exemple, vous faites un accident et on vous accorde des dommages et intérêts et ça vous enrichit. Ça, c'est un privilège. C'est ça qui nous est plus ou moins arrivé. C'est ça. Donc, ainsi, de la science, de la langue étrangère que nous avons héritée, hein, la colonisation nous a ouvert au monde de la science, hein, et ça, c'est ce qu'on peut retenir de la colonisation. Mais ce n'est pas au colonisateur de s'inventer. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
D'accord. Alors, c'est vrai que vous avez relevé aussi hein, une contradiction dans cette entreprise coloniale. Vous écrivez « Les choses, les objets à adopter, on nous encourageait à les adorer. Pourtant, on nous reprochait d'être une race qui n'adore que des objets à la place de Dieu. C'est ça la civilisation ?»
Vous savez, ça c'est le regard des colons, des colonisateurs. Hein, ils croient toujours que les animistes, c'est des gens. L'animisme consiste à adopter des objets à la place de Dieu. C'est leur regard. Mais en réalité, l'animisme africain de nos ancêtres reconnaît Dieu avec grand D. Hein, c'est plutôt le colonialisme matérialiste, aujourd'hui l'impérialisme capitaliste, on dirait, qui a supprimé Dieu, affaiblit sa perception et l'a remplacé par l'animisme moderne, ce que j'appelle l'animisme moderne, c'est-à-dire l'amour des objets, des gadgets.
Le matérialisme,
la belle voiture aujourd'hui, la maison vitrée, le téléphone high-tech. Hein, et nous, Africains, sommes devenus des super champions de la consommation matériel. Nous avons même dépassé les Blancs sur ce terrain. Hein, et jusqu'à perdre l'âme, l'humanité qui prévalait dans nos sociétés anciennes. Cette fièvre du matériel est-elle due à notre double animisme? Et parce que c'est une réflexion que je fais. Hein, et l'animisme de nos ancêtres ne me semblait pas du tout une religion purement... me semblait plutôt une religion purement terrestre. Comme l'a dit un écrivain béninois, le vaudou ne fait pas rêver. Hein. Et même nos ancêtres ne meurent pas. Hein. Ils sont restés vivants à nos services. Hein. Donc, cet animisme-là on y demande, qu'est-ce qu'on y demande souvent? La santé, la prospérité, etc., etc. Et moi, ça me mène à cette interrogation. Est-ce que c'est parce que nous avions une religion tout terrestre que aujourd'hui, même en étant chrétien, parce que la plupart de ceux qui vont à l'église, qu'est-ce qu'ils vont chercher? C'est la magie, hein? Des miracles. Ils vont chercher des miracles. Est-ce que c'est parce que dans notre religion traditionnelle, l'animisme, nous cherchons que des choses terrestres, que en devenant même chrétien, et aujourd'hui même athée ou chrétien, nous ne cherchons que des choses matérielles? Je rencontre très peu en Afrique des gens qui ont un idéal, un vrai idéal, auquel ils peuvent se sacrifier. Ce qui intéresse, nous intéresse, c'est l'argent. On connaît l'intérêt égoïste, l'intérêt communautaire, mais l'intérêt général, chez l'Africain, j'ai des doutes. Nous connaissons ça très peu.
Là, mais écoutez, c'est une observation que vous faites, mais comment y arriver? C'est là aussi la question. Et par quel mécanisme?
Oui, on va y arriver, puisque nous voyageons, il y a la diaspora. Moi, je sais que ce serait demain quelque chose qui les gens voyagent aujourd'hui, les gens déplorent cela, mais il y aura des retombées. Lorsque les conditions seront réunies, et nos jeunes qui ont beaucoup voyagé, qui ont vu, qui se seraient enrichis, que l'environnement serait propice dans leur propre pays, vont revenir. Ils reviendront sommer beaucoup de choses.
Ah, d'accord.
Et c'est ça qui nous manque.
Intéressons-nous à la décolonisation. Vous signifiez ceci. Et pendant cette décolonisation, on a oublié de décoloniser le décolonisateur. Le jour de notre indépendance, celui-ci a remis au nègre bon enfant un fusil automatique comme cadeau d'anniversaire. Ce fut le vrai début de la grande négrerie. Le noir devint le seul singe qui refusait d'évoluer et utilisait en rien l'âme à feu comme un jouet. Les coups d'État étaient de véritables parties de plaisir et le développement promis se réduisit à des feux d'artifice militaires. À coups de grenades, des illettrés gagnaient, cassaient des œufs sans faire des omelettes. Les présidents étaient souvent des tuteurs qui n'avaient pas 18 ans. Toute l'intelligence était, l'intelligentsia était conviée à leur table à manger sous serment de complicité. Claude, est-ce que vous n'êtes pas trop sévère avec les régimes militaires?
Oui, ce sont des régimes qui sont allés trop loin, souvent aussi très loin, dans la bouffonnerie, le biesque, hein, dans l'inhumain, au point qu'on se demande si mettre l'arme à feu dans les mains de l'Africain, souvent acquis à l'animisme moderne, ça veut dire aux choses matérielles, n'est pas un danger public. Hein. Et je peux la citer, Idi Amin, Bokassa, Martial Guema, Samuel Do, Mobutu, Samogo, Dadis Camara, le dernier.
Et Dadis Camara, bien sûr, qui a été gracié tout récemment.
Oui, oui. Sans oublier, j'en oublie. Justement. Volontairement.
Allez, volontairement, vous oubliez, allez-y.
Alors, ce qui rassure, c'est qu'il y a d'honorables exceptions dans les régimes militaires. Un Rollins, par exemple, un Seni Kounché. Kérékou, lui, s'est rattrapé. Sankara, lui, je le classe parmi les poètes. Hein. C'est un grand idéal trop tôt incarné, réincarné. C'est un grand idéal trop tôt réincarné.
Enfin, il était en avance par rapport à son...
Vraiment, vraiment, vraiment. Et tout le monde crie aujourd'hui l'AES. Oh, je n'applaudirai pas si tôt. Hein. Les militaires, on les connaît lorsqu'ils se mêlent de la politique avec leur kaki, et lorsqu'ils deviennent des affairistes, et ils le deviennent souvent, on sait, et ça devient difficile, le chaos devient difficile à arrêter. Je peux vous donner l'exemple du Soudan aujourd'hui, de la Birmanie. Hein, c'est ça, et c'est pas facile à désactiver après. Alors il vaut mieux, à mon avis, ne pas commencer. Un pays doit avoir un contrat social clair et doit avoir l'adhésion de la population. Point.
C'est vrai, une dernière question. Hein. Qu'est-ce que le machiavélisme, selon vous? Et si je pense toujours à votre essai...
Vous parlez du machiavélisme?
Oui, oui, machiavélisme.
Oui, le sens commun, j'ai écouté même vos journalistes ici dire, oui, nous félicitons tel régime d'avoir su conserver le pouvoir. Ils n'ont pas compris. Et est-ce qu'ils ont lu Machiavel? Il y a un sens banal, vulgaire de Machiavel, c'est la conservation coûte que coûte du pouvoir. Hein? Et même à des fins privées, à des fins tribalistes, c'est pas ça Machiavel. Et machiavélisme, c'est le fait d'utiliser des moyens douteux, à la et même des moyens immoraux, mais à des fins d'intérêt général. À des fins d'intérêt général. Sinon, vous n'êtes pas dans le machiavélisme. Hein? Et c'est là où, lorsque vous faites du machiavélisme simpliste, que vous êtes dans un état voyou, un état tribal. Il y a beaucoup de synonymes dans mon livre. Hein? L'état milégo, l'état des cochons en veste, autant de synonymes que vous trouverez dans mon livre.
D'accord, Claude, merci d'être passé. Nous allons revenir même d'ailleurs sur ces ouvrages, puisque c'est vrai, comme nous l'avons toujours fait avec les auteurs, nous revenons d'abord sur leurs ouvrages en chronique et nous les invitons aussi en studio. Mais il s'est fait que c'est vous-même d'ailleurs le chroniqueur et aussi nous étudions votre livre. Et donc, nous allons vous permettre même d'ailleurs de rester avec nous pour le débat si possible. Mais Eric, une question pour Claude.
Oui, mais justement, Claude, il a, quand j'ai lu le sang,
l'amour et le sang,
l'amour et le sang, et j'ai lu à travers cela ce genre littéraire qu'on appelle la dystopie. Mais Claude s'est dit que c'est un essai. Je n'ai pas compris pourquoi il n'est pas allé tout de suite à un roman. Et là, parce que il a utilisé un personnage, qui écrit, qui envoie des courriers à son fils adoptif, en quelque sorte. Mais ce qu'on lit à travers ça, je ne vois pas Claude lui-même en train de vivre cela. C'est-à-dire que pour moi, c'est
un
auteur imaginaire. Et donc là, je me suis dit, c'est pourquoi il n'est pas allé tout de suite à un roman, il parle d'essai épistolaire. Bon, bref.
Oui, justement, c'est un essai épistolaire. Et le genre épistolaire, c'est lorsqu'il y a échange de lettres.
Échange de lettres, oui.
L'autre l'a pratiqué, Montesquieu l'a pratiqué dans les lettres persanes. Oui. Mais là, c'est la narration, on écrit, on décrit ce qui se passe. Mais ici, la lettre se présente sous forme d'action. On disserte, on raisonne, on
donne son point de vue.
Mon point de vue.
Avec trop de conseils.
Oui, voilà, oui, beaucoup de conseils, oui, bien sûr. Beaucoup de conseils. C'est ma façon. Disons, c'est ma vision du monde.
D'accord. Maintenant, quand tu dis que la colonisation nous a apporté la science.
Oui.
Je crois que les égyptologues vont te démontrer le contraire. Parce qu'ils estiment toujours, et avec la dernière découverte d'un pharaon qui a vécu il y a plus de 4000 ou 5000 ans, ils disent...
Akhenaton.
Non, pas Akhenaton, pas lui. Après Akhenaton, il y a eu un autre encore. Donc, il dit qu'il a eu à découvrir des choses que les gens utilisent aujourd'hui dans la science pour dire que c'est des découvertes, alors qu'eux, ils ont déjà pratiqué tout ça là il y a des milliers d'années. Et donc, je me dis, quand tu dis que la colonisation nous a apporté ça, Je pense que les...
Vous émettez alors de doutes.
Ouais, ne seront pas d'accord.
C'est un grand débat. Moi, nous devons éviter des fiertés inutiles, des masturbations, parce qu'on est devant un vide. Et moi mes oncles que j'aime bien, qui sont au village, mon père est mort à Lomé, je suis allé les voir dans le village, à Vaugan, je ne leur ai pas trouvé cet esprit scientifique-là. C'est des gens qui étaient dans une ignorance totale où est partie la science de l'Égypte. Parce qu'ils étaient gardiens de quoi, là, alors? Moi, je crois que tout ça est vrai. Les Descartes, les grands scientifiques, les Pythagores, pas les Descartes, les Pythagores, les anciens, sont allés chercher la science en Égypte.
Voilà.
Bon. Maintenant, où est parti tout cet héritage? Ceux qui ont vivifié cet héritage, ce sont ceux qui nous les ont retransmis. C'est ça. C'est que peut-être que je peux me corriger en disant, ils ne nous ont pas initiés, ils nous ont réinitiés à la science. Hein? C'est pas le truchement de la colonisation que nous sommes devenus, hein, que nous avons créé aujourd'hui les universités, que nous avons aujourd'hui l'émergence des génies qui naissent un peu partout en Afrique, etc. Ce n'est pas l'Égypte. Hein, les autres ont transité justement par l'Égypte. Hein, mais reconnaissons que faire la transition de l'Afrique d'aujourd'hui avec l'Égypte, c'est un peu trop osé, à mon avis.
Merci, hein, je ne nie pas ça. Oui. Merci, Claude. Isidore Kola, bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour aux invités. Bonjour aux collègues. Bonjour à toutes et à tous.
Une question à Claude?
Oui, une question. D'abord, comment vous définissez l'animisme?
Oui, l'animisme, il faut distinguer ça de la sorcellerie, bien sûr. Et l'animisme, c'est cette croyance qui passe par les choses de la nature pour s'adresser à Dieu. Hein? Et les choses de la nature, un baobab, ça peut être un esprit, une pierre, ça peut être un esprit, etc. C'est ça, l'animisme.
L'étymologie de l'animisme, c'est la religion de l'âme.
Oui, c'est ça, l'âme. C'est quoi l'âme? Je vais vous expliquer.
Voilà.
L'âme, ça veut dire on donne l'âme à une chose. C'est que c'est donner l'âme à une chose. C'est ça l'animisme. Hein? C'est ça. Et ça devient...
Je ne l'ai pas senti dans votre essai.
Oui, l'essai, non, tu l'as lu?
Non.
Non, je suis en train de l'expliquer.
Ok, d'accord.
Et c'est ça. C'est le fait de donner l'âme à une chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je parle de l'animisme ancien et de l'animisme moderne. L'animisme moderne, aujourd'hui, nous donnons même notre âme aux choses, aux gadgets. Mais l'animisme ancien, ce n'est que une religion qui permet de donner une certaine âme aux choses pour accéder à Dieu. Voilà, c'est différent.
Non, pas forcément.
Oui.
Bon, bref, ça c'est un autre débat.
Oui.
Et ma question, d'abord, vous féliciter en tant que critique littéraire. Et vous avez fait des essais, vous avez fait des publications, c'est rare. Souvent, ce que moi je vois des critiques togolais, c'est quand tu publies quelque chose, on te casse.
Non.
Oui, souvent.
Non, si tu...
Non, c'est souvent parce que vous avez fait un développement.
On laisse.
Vous avez fait un développement pour ressortir ce que même celui qui a écrit ne rêvait pas. C'est ça. Mais à chaque fois, quand vous allez à des cafés littéraires où on casse complètement les critiques littéraires. Et vous êtes l'un des rares, comme Apedouama, qui aussi est critique, mais produit aussi des ouvrages ou des œuvres littéraires. C'est très important, parce que c'est facile de critiquer, mais c'est difficile d'écrire et de produire.
D'accord.
C'est en cela que je vous félicite. Et cependant, je suis resté sur ma soif.
À propos de quoi?
Oui, quand vous disiez que il l'a dit tantôt, c'est les Occidentaux qui nous ont amené la science.
Oui.
Nos parents ont déjà la science. Mais...
Pas de la science mathématique, hein?
Non, pas la même. Pythagore est parti par où?
Ils sont initiés.
Non, Non, c'est la tradition orale.
C'est un débat.
Non, c'est la tradition orale.
J'aurais pu vous
rejoindre, dire que la tradition orale n'a pas permis de transmettre ses connaissances.
Oui.
Et que ceux qui sont venus se sont appropriés, l'ont mis dans le livre.
Oui, vous n'avez été que net. C'est ce que j'ai voulu dire. Vous avez été plus... plus clair et plus net. C'est
d'accord,
tout.
Ok, oui, Jean-Baptiste. D'accord, ok, alors on va aborder nos sujets de l'actualité. Eric, c'est vous qui nous donnez ce premier sujet. Vous écrivez facilitation des échanges entre 2022 et 2024 selon l'OCDE, le Togo dans les 10 principaux réformateurs en Afrique subsaharienne. Le Togo a fait des prouesses, c'est ça?
Évidemment. Alors, là, il s'agit de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, une organisation onusienne, et qui évalue les stratégies d'échanges commerciaux entre les différents pays et les différentes régions du monde. Et donc, pour faire ce travail, l'OCDE s'est donné une périodicité de 2 ans pour évaluer les 163 pays qui sont membres de cette organisation. Et donc, le rapport qui a pris en compte la période 2022-2024 est sorti au mois de mars dernier. Et ce rapport estime que il y a beaucoup de réformes qui ont permis à ce que les obstacles dans les échanges commerciaux entre les pays et les régions du monde ont évolué, et donc ces obstacles-là ont diminué de 3 à 7%. Ça veut dire que entre 2022 et 2024, enfin, on est en 2025 début, et donc les obstacles ont été enlevés petit à petit. Et dans les pays de l'Afrique subsaharienne, il y a eu 10 pays qui ont fait véritablement des réformes allant dans le sens de fluidifier les échanges commerciaux. Et donc, parmi ces pays-là, il y a le Togo, qui fait partie des 10 premiers. Et donc, l'OCDE estime que d'ici encore 2 ans, que cela peut encore, ces obstacles-là peuvent encore diminuer de 12%. Et donc, c'est une situation qui permet quand même au monde entier de pouvoir s'interconnecter, de pouvoir s'interéchanger. Et donc, ça permet quand même à tous les pays de pouvoir. Là, nous, au Togo, on a cette chance que parmi les 10 réformateurs, il y a 2 pays limitrophes comme le Ghana et le Bénin. Et donc, ça permet quand même de faire des échanges commerciaux très fluides. Alors, de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'au-delà de ça, il y a encore des pays qui cherchent quand même à limiter ces échanges-là. Et donc, ces pays ne permettent pas forcément à ce que les taux d'échange soient accessibles à tout le monde.
D'accord. Oui,
Isidore. Non, je vais coller ça à l'actualité. Il faut oublier ces histoires de OCDE et autres là. Le chantre du libéralisme, de la mondialisation, que fut les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, a retourné les vestes. C'est le protectionnisme pur et dur. Quel crédit allons-nous accorder à ces évaluations? Il faut qu'on puisse y réfléchir. Je ne suis pas décideur. Trump nous amène à nous prendre en charge. On nous a vanté les mérites de la mondialisation, des échanges et autres. Regardez ce que Trump est en train de faire. C'est le protectionnisme. J'invite nos États africains à se prendre en charge face à l'impérialisme de Trump. Oublions ces histoires de OCDE
et doing business. Non. C'est de la tromperie. Ça ne nous permettra jamais de développer.
C'est votre avis.
Ça ne nous permettra jamais de nous développer.
C'est votre avis, Isidore. Oui, Jean-Baptiste.
Je voudrais rapidement répondre à Isidore. Il y a une situation. Donald Trump a dit aujourd'hui que les États-Unis sont en train de perdre de l'argent par rapport à ces échanges-là avec plusieurs pays, plusieurs régions du monde. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente les taxes sur les produits qui arrivent sur le sol américain. Il est parti jusqu'à dire...
Tu ne vas rien m'expliquer. Et que faisons-nous? Quand les gens viennent...
Tout le monde comprend ça. Oui.
Quand les gens viennent ramasser, nous sommes sur de l'or. Nous avons toutes les richesses. Ils viennent piller. Et nous avons... C'est eux qui fixent les prix. Ce n'est pas normal.
Il faut que nous prenions en charge. J'ai voulu l'écouter. Attention. Ce qui se passe aujourd'hui, là, on est en train de dire que l'OCDE a fait un rapport sur les échanges commerciaux.
Avec des critères bien définis.
Bien définis. 11 au total. Maintenant, ce que l'on dit, ce sont les obstacles aux frontières. Comment faire en sorte que ces échanges-là puissent se réaliser entre les pays, entre les régions. Même si Trump augmente les taxes sur les produits qui arrivent sur son territoire, c'est qu'il faut quand même que ces produits-là arrivent sur le territoire. Et donc, ce n'est pas parce qu'on augmente les taxes qu'il n'y aura plus d'échanges entre les pays, entre les régions.
Et que faisons-nous?
Maintenant, que faisons-nous? Nous devons faire quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous produisons et que nous envoyons aux États-Unis?
On produit beaucoup de choses.
La
matière première.
C'est pas une production.
Non, seulement on ne met pas de la valeur ajoutée, c'est tout.
Oui, mais justement, c'est en cela qu'il faut mettre de la valeur ajoutée. Avant qu'on ne parle de la production.
Oui, mais il vient.
On donne la parole aussi à Jean-Baptiste, puisque là, il doit aussi alors s'exprimer sur le sujet. Jean-Baptiste, oui, mais aujourd'hui, en tant que pays en voie de développement, on ne peut pas vivre en autarcie.
Oui, naturellement, aucun pays ne doit vivre en autarcie, parce que quand vous voulez vivre en autarcie, c'est que peut-être, ça n'existe même pas, parce que vous avez toujours besoin des autres, quelle que soit votre richesse au niveau de votre territoire, vous aurez besoin d'une matière que vous irez chercher dans un pays ailleurs. Donc aujourd'hui, mon ami Isidore parle de protectionnisme. Je crois qu'il a juste trouvé le mot avec la situation actuelle que les États-Unis imposent au monde entier, parce que en augmentant les taxes, ça veut dire qu'il protège son économie. Tout pays qui veut exporter sur le territoire américain doit subir ces taxes-là. Donc, c'est dire que c'est le protectionnisme pur et dur. Donc aujourd'hui, si les pays ne doivent pas subir ce diktat de Trump, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils doivent quand même chercher à faire écouler leurs marchandises entre eux. Donc c'est en cela que je rejoins un tout petit peu mon ami Eric pour dire que les barrières ou bien les goulots d'étranglement qu'il y a au niveau des commerces intra et état, surtout quand nous prenons notre continent, beaucoup d'études ont prouvé que les états ne changent pas beaucoup entre eux. Surtout quand on prend la CEDEAO, c'est un problème. Les 15 états ne changent pas beaucoup entre eux. Et quand on va élargir cela à l'Union africaine, il y a beaucoup de pays pays africains qui ne font pas de commerce intra ou bien inter entre eux. Donc ça a été prouvé par beaucoup d'études. Donc aujourd'hui, si réellement on veut, ou bien les États, les décideurs veulent vraiment rendre plus fluides les échanges, il va falloir lever justement les goulots d'étranglement qui font que ils ne font pas nous ne développons pas le commerce entre eux, notamment les barrières douanières qui constituent vraiment des casse-têtes pour les commerçants, et aussi d'autres frais, des faux frais, surtout au niveau des frontières, beaucoup de faux frais et des tracasseries qui font que beaucoup d'opérateurs économiques décrit ces goulots d'étanglement, ces barrières qui font que peut-être un déplacement ou une activité que tu dois faire à un temps T, tu es obligé de multiplier par 4 fois ce temps-là, et aussi les prix, les tarifs qui doivent peut-être être accessibles, ces tarifs sont augmentés de façon peut-être unilatérale quand on parle d'un pays à un autre. C'est tous ces barrières-là qu'il faut lever afin que le commerce soit fluide au niveau des États africains.
Merci Jean-Baptiste. Oui. Isidore,
qui est très important et primordial, nous n'avons pas une devise. Nos monnaies sont alliées aux monnaies étrangères. C'est ça le problème. Il faut qu'on puisse arriver à créer une monnaie africaine.
C'est ça.
Ou que on puisse aussi peser dans la balance des échanges. C'est très important. Nkrumah l'a essayé. Sylvain Sonupio l'a essayé. Mais ça n'a pas prospéré. C'est une occasion ultime pour nos chefs d'État, surtout à l'Union africaine, de pouvoir y réfléchir, qu'on puisse peser dans la balance.
Alors,
oui, Eric.
Là où il y a un problème, c'est qu'en augmentant les taxes, c'est que Trump veut limiter l'arrivée des produits d'autres pays, d'autres régions sur le sol américain. Alors, il y a cet organisme qui est l'OCDE qui doit forcément prendre cela en compte et revoir, c'est vrai, ce que disait Isidore, revoir un peu sa politique d'évaluation. Parce que ça fait quoi? Aujourd'hui, ce qui se passe, il y a une riposte hein, des autres pays.
Évidemment. Parce que c'est l'Afrique.
Les autres disent, quand vous prenez Tesla, par exemple, Tesla a chuté dans sa vente de véhicules électriques en Europe. C'est une chute libre parce que les autres se sont dit attention, si nous on arrive à consommer les produits américains à un taux raisonnable et que nous ne pouvons plus par exemple importer du vin français ou belge, exporter du vin et tout ça aux États-Unis parce que la taxe est élevée, alors il faut qu'on arrête de consommer les produits américains.
Voilà.
Et ça,
c'est le protectionnisme.
Ça fait que lundi, il y a eu
les bourses ont chuté justement.
Donc, je crois que c'est vrai. Quand il y a une situation comme ça, il faut aussi porter une riposte. Et on est tous d'accord là-dessus. Mais ce rapport concerne 2022 à 2024.
D'accord. Oui, Claude, est-ce que vous avez l'impression que l'Afrique que nous sommes aujourd'hui, on a justement les manettes nécessaires pour faire cette guerre économique, allons nous dire quand même, qui se passe alors dans le monde entier?
Ce n'est pas facile. Et le Isidore, qui est un chantre de la puissance enfin, de l'Afrique, hein, ce qu'il se soucie dans toutes ces guerres-là, ce que l'Afrique peut faire pour s'en sortir. Et je veux lui dire que ça suffit pas de créer une monnaie. Hein. Et il faut un dynamisme économique. Si vous n'avez pas une économie très dynamique qui supporte la monnaie, c'est une monnaie de singe. Et la production, pour qu'il y ait vraiment une production, il faut une valeur ajoutée. Il faut transformer vos produits, hein, et leur donner la qualité concurrentielle. Sinon, vous n'existez pas. Et souvent, on subit. Et l'Afrique a toujours l'habitude de subir et de gémir. C'est ça le problème. Hein. ce que Trump est en train de faire, c'est presque une aventure. Hein. Il applique à la politique sa logique commerciale. C'est une aventure. Est-ce que ça va marcher? Parce que les États-Unis, dans le monde, qui dépensent beaucoup, ils en tirent aussi quelque chose. Hein. Il y a ce qu'on appelle le soft power. Ouais. Hein, le soft power, c'est pas seulement, la puissance n'est pas seulement militaire.
Non, non, non.
La puissance, c'est le charme. Hein, c'est le charme. Et ça, les États-Unis ont réussi à imprimer leur marque au monde de ce côté-là. Et
qu'il faut oublier. Qui s'essiole.
C'est ça. Ça va s'essioler.
Trop
bien de faire. Il veut même le troisième mandat. Il faut l'envoyer en Afrique pour s'initier.
D'accord. On va quitter le sujet. On va aborder un autre sujet. On aborde un autre sujet. On ne va pas rester quand même sur ce sujet éternellement. On ne va pas faire quand même toute l'émission avec cela. C'est vrai que c'est un sujet passionnant. Je suis parfaitement d'accord.
Pas passionnant, mais...
Passionnant. Non, transversal. Oui, transversal.
Et ça doit faire réfléchir les dirigeants africains.
Je suis parfaitement d'accord.
Surtout avec ce qui s'est passé en 2020 avec la crise ukrainienne où le blé a été une denrée rare en Afrique. Je crois que les dirigeants africains doivent quand même réfléchir.
Mais l'Égypte a commencé par produire du blé.
Absolument. Donc, et réfléchir autrement. Sinon, au lieu de s'accoutumer sur le pouvoir, alors qu'il faut développer les économies africaines, ce n'est pas seulement le pouvoir.
D'accord. Oui, mais Jean-Baptiste, je reste avec vous hein, par rapport à ce sujet. Vous écrivez dans votre journal, à la une même d'ailleurs du journal Écho du Monde ce matin, bientôt de nouvelles élections locales, les maires candidats à leur propre succession dans l'œil du cyclone. Qu'est-ce que vous voulez exprimer par là, Jean-Baptiste?
Oui, Pascal, vous savez, nous étions en 2019 quand le Togo... allait renouer avec les élections locales où certains qui étaient candidats avaient quand même fait miroiter aux électeurs qu'une fois quand ils seront élus, ils auront quand même à transformer leur milieu de vie, surtout ici quand on se réfère surtout à la capitale où certains partis politiques avaient dit que bon, quand ils seront aux affaires, ils auront à créer des Eldorado pour la ville de Lomé.
Quoi, après 6 ans, rien n'a changé.
Surtout les infrastructures, surtout socio-communautaires qui manquent jusqu'alors. Il y a les problèmes d'assainissement qui font problème actuellement dans beaucoup de communes où, à la moindre pluie, vous allez voir le chaos qui s'installe dans certains quartiers de la capitale. Et au-delà de ça, certains ont promis quand même des espaces verts pour Lomé, ou même certains ont fait croire qu'ils vont construire des... Comment l'appelle-t-on? Il y a une sorte de...
Vous voulez parler des ponts?
Oui, c'est ça.
Ou des échangeurs?
Échangeurs qui ont été vantés. Mais aujourd'hui, après 6 ans, on ne voit pas réellement. Si on évalue les promesses qui ont été faites aujourd'hui, il n'y a pas de satisfaction dans plusieurs communes du pays, notamment dans la capitale, où il y a beaucoup de chantiers que certains ont commencé, mais qui n'ont pas connu d'aboutissement et qui probablement ne vont pas connaître d'aboutissement dans les 3 ou 4 mois qui restent pour cette mandature. Voyez un certain nombre de choses que nous avons quand même essayé de dégrainer. Et aujourd'hui, et même quand on va à l'intérieur, il y a beaucoup de communes dans lesquelles on ne sent même pas qu'il y a eu vraiment une décentralisation parce que ces maires-là, ils n'ont pas quand même réussi à impacter tant soit peu leur commune. Donc aujourd'hui, mais c'est les mêmes maires qui aujourd'hui tiennent le bout en voulant être candidats pour leur propre succession. Et donc, on ne sait pas si c'est lorsqu'ils auront un deuxième mandat qu'ils vont quand même faire le miracle, s'ils n'ont pas pu le faire pendant les 6 ans, est-ce que c'est en ayant un autre mandat que le miracle va se produire? Donc c'est cela que nous essayons
de relater d'accord. D'accord. Merci Jean-Baptiste.
Je commence par une boutade.
Oui.
les 20 plus de forts.
Oui, non,
est-ce qu'il a pu réaliser
vous
bon,
ça...
bref, non, je reviens.
Oui, vous savez, on ne va pas quand même... on sait que, de façon générale, quand on prend le régime en place, on sait que
bon,
par là...
Maintenant.
Non, mais soyons précis, parlons maintenant des mairies.
Des mairies. Ceux qui avaient fait ces promesses étaient dans la dynamique de la première mouture de la loi sur la décentralisation, qui a eu beaucoup de modifications, qui a connu beaucoup de modifications, et on a privé ces communes des registres financiers. Ça, il faut le relever. C'est pas, je n'ai pas parcouru ton article. C'est en pleine campagne qu'on a modifié les tests. Jusqu'à quand on a créé Dagle, district de Grand Lomé. Mais écoutez, on a affaibli ces mairies. Et moi, j'étais de ceux qui disaient qu'on a saucissonné le Togo. Le Togo n'a pas besoin de 117 communes. Ce seront des communes économiquement non viable. On était parti et l'Union européenne avait donné des milliards pour le district de Grand Lomé. À l'époque où on devait fusionner et à Guanivé et Golf pour faire une communauté, enfin une commune viable, économiquement viable. Qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé à 13 communes.
Mais finalement.
Dans le Grand Lomé.
Oui.
Écoutez, moi, je me plains. Pour vous prenez Golf 1, cette commune peut s'en sortir. Golf 4 aussi peut s'en sortir. Golf 2 dans une grande mesure. Mais Golf 3. Mais quelles sont les ressources?
Golf 2 même.
Bon, un Golf 2 même, on peut dire dans une bonne mesure. Bon, voilà comment on a émietté les ressources. Et aujourd'hui, les résultats sont là.
Merci, Isidore. Ouais, Eric, est-ce que déjà après les 6 ans passés, 6 ans qui, que moi j'appelle même d'ailleurs, en quelque sorte, des moments où une période d'expérimentation pour la décentralisation, est-ce qu'on peut dire que rien n'est fait?
Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Du moment où, vous savez, moi je prends toujours la chose de façon basique. Quand vous êtes à la tête d'une commune, chaque commune et chaque année présente un budget. Et les budgets sont liés au projet. Et donc...
Et aux ressources.
Est-ce que... Oui, liés au projet parce que nous sommes en train de parler des projets qui ont été vantés mais qui n'ont pas abouti. C'est pour ça que je parle des projets. Alors, est-ce à dire que les projets qui ont été proposés pendant chaque année n'ont pas trouvé de financement ou est-ce que les ressources qui ont été engagées par les différentes communes n'ont pas permis de réaliser ces projets? Quand je parle de budget, parce que l'État finance quand même toutes les communes. Et donc, pour moi, je me dis... Si on a une vision et si on veut faire un travail, enfin, excusez-moi, mais sain, je pense qu'il faut d'abord se baser sur les projets qu'on va initier. Il ne s'agit pas d'initier plusieurs projets pour ne pas pouvoir les réaliser. Si nous avons un objectif dans notre commune, nous pouvons décider, on se dit... Cette année, voilà ce que nous allons faire comme projet et nous devons le réaliser. Quitte à amasser toutes les ressources qui arrivent dans ce projet-là pour que ce soit véritablement un projet viable.
D'accord.
Non, à cela, il y a un bémol.
Oui, c'est quoi le bémol?
Le bémol, c'est que les gens introduisent leur projet. Il faut le OK du ministère. Et c'est pratiquement au mois de juin ou juillet qu'on libère les ressources. Voilà.
Et donc, ce qui veut dire que le projet prendrait aussi du retard.
La donation ou la dotation devait se faire dès janvier ou au plus tard février pour que le projet
puisse se réaliser.
D'accord. Ce n'est pas à trois mois de la fin de l'année qu'on vous libère les ressources.
Et justement, par rapport à ça, lorsque vous savez que les budgets sont libérés à une certaine période donnée, vous faites votre projet en tenant compte
de ça. Ce n'est pas normal.
Mais parce que l'État a son mécanisme de
financement des projets.
Mais écoutez, nous sommes dans un programme budget-programme aujourd'hui.
Oui.
L'État ne libère pas... Prenez l'aide de l'État à la presse. Pourquoi, à une certaine époque, on reçoit l'aide de l'État à la presse au mois de mai et d'autres fois au mois de septembre?
Mais ce n'est pas normal.
Je vous explique qu'il y a un mécanisme de décaissement des fonds.
Ce mécanisme, il faut le combattre.
D'accord.
Pour qu'il y ait une efficacité.
Okay.
Si on veut atteindre nos objectifs, il faut le combattre.
Il faut
le dénoncer.
D'accord. Ok. Close. Quel est ce regard que vous portez sur déjà les 6 ans passés par les maires, la gestion,
les écoles privées, les écoles publiques.
Merci. Close. À vous maintenant la parole. Quel est ce regard que vous portez alors sur la gestion de ces mairies pratiquement pendant 6 ans? Parce que c'est leur premier mandat.
Je serais tenté de suivre Isidore. La politique pourrit tout au Togo. On trouve toujours des alibis. Et on connaît la règle, mais on ne l'applique pas parce qu'on a toujours des arrière-pensées. C'est la bonne volonté qui manque. Moi, je peux vous donner l'exemple. J'étais à Vaughan. Il y avait le parti au pouvoir qui crie toujours que les cadres d'une préfecture peuvent dépasser les clivages pour réaliser quelque chose d'harmonieux dans la préfecture. Il y avait des cadres qui ont eu de très belles idées, qui n'avaient même pas de bonnes politiques, qui ont pensé quelque chose de très viable. Ils ont approché le maire, ils l'ont soumis. On a envoyé ça à la hiérarchie à Lomé, je crois que c'était au niveau de la préfecture. Et à la fin, je crois que le jour où on doit tenir la réunion de tous ces cadres-là, c'est ce jour-là que la primature convoque convoque et le maire et tout ce que vous voulez, parce que moi, j'étais invité aussi à Lomé. Alors que c'est le jour même que doivent se tenir les assises. Il n'y a pas de bonne volonté. Parce que, franchement, les intentions sont ailleurs, et les intentions sont claires. Tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde voit ce qui se passe.
D'accord, merci.
Tout le reste, c'est des alibis.
Merci, Claude. Oui, rapidement, ouais. Jean-Baptiste, nous parlons de cette révision de liste électorale qui a démarré hier, et c'est du 7 au 23 sur toute l'étendue du territoire national. C'est vrai, hier, il y a la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple qui a visité certains centres, et là, le constat, c'est que dans le démarrage, il y a eu des pannes techniques pour certaines machines, il y a la lenteur dans le travail, et ce qui a fait que finalement, pour la journée, il y a l'enregistrement alors de pratiquement 30 à 50 personnes dans la journée. Et finalement, est-ce que nous allons dire que ça a mal démarré?
Bon, on peut le dire, ça dépend de ce que la DMP a constaté Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a des reproches qu'on fait souvent à la CENI, la structure organisatrice des élections au Togo, mais ces problèmes sont souvent récurrents et je crois que la CENI doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas chaque année répéter toujours les mêmes choses, les mêmes couacs qu'on reproche à la CENI. Ça va se répéter chaque fois qu'il y a élection. Je crois que nous devons grandir. Le Togo doit grandir. On ne peut pas, depuis presque 2007 jusqu'alors, où le Togo se dit qu'il est autonome, il va organiser sur fond propre ses élections. Et puis, chaque fois, c'est des reproches qu'on doit faire à cette structure. Je pense que ce n'est pas bien pour son image même. Parce que si on doit déployer les matériels pour pouvoir enrôler les gens, il faudrait qu'on essaie ces machines pour voir si réellement elles sont opérationnelles. Ce n'est pas sur le terrain où il n'y a plus de techniciens, hein, dans les bureaux de recensement, dans les centres de recensement, qu'on va constater qu'une machine n'est pas opérationnelle. Ce n'est pas bien pour la CENI.
Merci. Oui, Isidore.
Moi, j'ai fait le tour. Hein. Franchement, c'est une désolation. D'abord, il n'y a pas eu mobilisation de la population. Les gens n'étaient pas informés.
Pas du tout.
N'eût été les radios ou nous autres qui allons dans des émissions. Mais la CENI n'a rien fait. C'est l'organe de gestion de les élections. Le peu que je connais des élections, mais ça, c'est chaotique. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est chaotique. Avant de venir ici, j'ai circulé encore dans des centres. Mais quand vous demandez aux gens, mais écoutez, il faut mettre à contribution
les médias.
Non seulement les médias, mais aussi les chefs traditionnels. Pour qu'ils puissent sensibiliser la population. On gogonnait à dire que, bon, à partir de tel jour, allez faire ci, allez faire ça. Cette fois-ci, on ne l'a pas remarqué. Ils ont fait sciemment. Et c'est la CENI qui a manqué de pouvoir faire cette information.
Merci Isidore. Oui, Eric, est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il n'y a pas eu assez de communication autour lors de cette opération de révision de liste électorale?
Nous l'avions déjà évoqué. On l'avait évoqué la semaine dernière ici en disant que les populations ne sont pas informées et qu'il faut véritablement faire un travail de communication beaucoup plus avancé afin que les gens aillent se faire enrôler. Moi, mon problème se trouve quand même au niveau des jeunes qui viennent...
Ils sont en âge de voter.
De voter et qui n'ont pas su même qu'il y a une telle opération. Et donc, je crois qu'ils ne vont pas pouvoir faire leur devoir civique. Et c'est là où je me dis qu'il faut... Je suis sûr, hein, et ça je le dis, ils vont encore dire on va ajouter une journée ou deux.
Mais est-ce que ça va régler le problème?
Ça va pouvoir permettre d'enrôler tous ces gens-là?
Oui, Claude, est-ce que c'est quoi que déjà dénote alors d'un mauvais démarrage alors de la chose?
Non, moi, j'ai déjà tout dit. Hein, je crois qu'au Togo, nous avons des mécaniciens qui ont une spécialité, hein, de grands mécaniciens qui ont une spécialité, c'est de mettre les machines en panne.
comment ça
cause? Non, c'est un caractère de virus, finalement.
Ça se fait sciemment.
C'est
un caractère de virus.
Bien sûr. C'est ça le Togo. C'est ça le Togo. Et je crois qu'on s'en... Je crains même qu'on ait, à la fin de ces municipales, le taux d'abstention, le record, même mondial. Hein. Les comment vous appelez ceux qui sont dans les bureaux de vote, comment vous les appelez?
Les scrutateurs.
Ils rient de s'ennuyer.
C'est ça.
Hein,
à tourner les pouces.
Voilà, c'est ça. Et puis, la plus grande panne qui est produite, les effets seront incalculables, c'est cette histoire de 5e République. La 5e République, les calculs, les retombées négatives seront incalculables. Parce que, moi je dis une chose, si les gens sont sincères, veulent redresser le pays, ils n'ont qu'à faire deux choses. Réorganiser, refaire la CENI et recomposer la Cour constitutionnelle.
D'accord.
Moi, merci. Le changement, tout ça, toutes ces acrobaties, ces comédies, ça fait pleurer.
D'accord, merci Claude. Maintenant, on va donner la parole aussi à nos auditeurs. Je sais que nous avons fait des débats, hein, le débat alors sur des sujets liés ici à l'actualité. Nous allons maintenant donner la parole à nos aux auditeurs. C'est sur le 90 86 35 35 91 36 sur 315. Et aussi, ils peuvent nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous reprenons l'antenne et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et nous écrire également sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Un message d'abord sur notre WhatsApp. Bonjour Canal FM. Pourquoi les machines rament toutefois quand on lance ces opérations dans le Grand Lomé? Je tente de dire que nous aimons trop des vestustés et il faut que la CENI prenne sa responsabilité. Surtout c'est Ibrahim qui nous écrit. Allô? Allô, bonjour. 90-86-35-35. Allô? Allô, bonjour. Voilà, nous allons passer à notre auditeur. 90-86-35-35-91-36-63-75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Salut, monsieur Pascal.
Comment vous allez? C'est Dodi.
Ça va bien, c'est monsieur Aboubacar depuis Nkafu.
Ah, c'est plutôt Aboubacar. Allez-y, Aboubacar.
Vous savez, je salue votre écrivain là. Que Dieu le bénisse. Il a tout dit. Tu sais, la vérité blesse. Chez nous, monsieur Pascal, on dit si vous refusez d'aller au champ le vendredi, il ira ça le jour de la fête. Donc, laissez le gouvernement faire ce qu'il veut. Merci, bonne journée.
Merci à vous, Aboubacar, pour votre intervention. 90-86-35-35-91-36-63-75. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo.
Allez-y.
Oui, vous savez, nos communes, là, moi, je les appelle les sous-préfectures.
Vous les appelez?
Les sous-préfectures.
Des sous-préfectures?
Oui. À des préfectures du Golfe. Préfectures du Golfe. Golfe 1. Golfe 2, Golfe 3, Golfe d'Agoué, Agoué 1, Agoué 2, un peu de cette voie, vous suivez à peu près. Et le maire, Jean-Pierre Pav avait soulevé entre temps que ce n'est pas au ministre de signer un décret nommant un chef au quartier, que ça revenait au maire. Tout est arraché au maire, les marchés, tout. Vous voulez que, bon, quelle mairie a réussi dans ce pays si on émiettait les choses comme ça? Hein? Au lieu de décentraliser les choses, ils ont plutôt déconcentré. Donc, ils sont chapeautés par le gouvernement. Et par rapport aux élections, y a-t-il l'attention de l'opposition? Vous savez, de pas le passé avec les élections législatives, on a vu les gens qui se disent indépendants ou bien partis d'opposition qui ont organisé des meetings de sensibilisation et finalement ces meetings sont animés par UNIF. Donc on va multiplier beaucoup d'opposition, ils peuvent être 2000, 3000 pour perturber les citoyens. Mais est-ce qu'il ne faille pas que l'opposition se retrouve pour saisir un symbole pour convaincre le peuple d'aller de porte à porte pour pouvoir rappeler. Sinon, c'est comme ça l'Unir va continuer. C'est une autre stratégie de l'Unir. J'attire leur attention.
Merci Nyamava pour votre intervention. 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour madame ici.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Qu'on appelle, hein.
même si on n'a plus envie de quoi que ce soit, bon.
Allez-y, madame, si, allez-y. Allez-y, allez-y.
Oui. L'écrivain a parlé de Machiavel. Machiavel, ça correspond surtout au cas du Togo. Ça correspond au Togo. Et puis, partout en Afrique, hein. Les Africains, les gouvernants ne sont pas sérieux et puis voilà quoi. Et puis, c'est des gens qui veulent être membres permanents de l'ONU. Ils ne sont pas sérieux, ils veulent être membres permanents de l'ONU. Et les élections, est-ce que c'est du coup que le même régime que si décidé va organiser les élections tous les jours, tout le temps, en catimini, et puis eux-mêmes, ceux qui organisent ça tout le temps là, leur dignité est où? C'est-à-dire laisser l'histoire bien quoi. Moi, c'est où leur dignité? Ils ne veulent pas décrocher du pouvoir et l'argent. Et puis le pays dans cet état. Est-ce que c'est pas bon pour eux-mêmes? Ils écrivent une histoire noirceur. C'est pas bon. Et c'est écrit nulle part. C'est le même régime qui organise des élections frauduleuses entraînant mort d'homme va continuer si l'opposition fait quoi? Hein? L'opposition n'a qu'à faire appliquer les lois de la République.
Merci, madame Essi. Oui, merci, madame Essi, pour votre intervention. Bonjour, Pascal, et le panel, hein, tout entier. Félicitations à vous pour l'excellent niveau du débat de ce jour, ainsi que les analyses pertinentes effectuées sur les sujets débattus. Excellente suite de journée à tous. C'est Koku, hein, qui nous écoute à Vepozo, et il voudrait juste alors nous apprécier. Allô? Allô, bonjour. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô? On attend l'auditeur. Bonjour Canal FM, c'est encore le moment pour que nos mairies nous vendent des illusions, mais une fois arrivés à la tête de la mairie, ils vont commencer à faire du n'importe quoi, mais prions que cette fois-ci, ils vont prendre conscience et faire évoluer les choses. C'est André qui nous écoute depuis Dakar. 90 86 35 35. Allô? 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Oui, bonjour Papa Sibiti.
Bonjour Franck Directeur.
Papa Sibiti,
j'espère... Bonjour tous les plateaux. Vous savez, c'est concernant les élections, bon, mon directeur, aidez-moi. Il semble que ceux qui ont déjà les cartes ne doivent pas aller se faire... inscrire, c'est ceux qui n'en avaient pas.
Effectivement.
Ah, d'accord. Donc, nous qui en avons là, on ne doit plus aller. Deuxièmement, il faut que la CENI, là, elle travaille. Avant, j'interpellais le président de la République. Mais les gens ne savent pas qu'il a. Il ne faut pas aller retirer les cartes. Hein. Il faut aller se faire. Il y a des tâches des jeunes là. Il dit papa, élection Baléa. Et allez prendre les cartes. Et puis, troisièmement, il faudrait que la CENI, l'opposition, les partis là, ils s'asseyent d'abord avant de lancer. Maintenant, il y a des critiques. Pourquoi ils doivent que tel nombre, tel jour, il y a les choses, tel nombre de jours. Ils vont s'entendre avant de lancer rien de la bouillabaisse. Il faut qu'ils le fassent parce que les choses ne vont pas suffire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Papa Sibiti, pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Allô?
Oui, allô, Pascal, bonjour.
Bonjour, Évangéliste Senghor. J'espère que vous allez bien.
Salut tout le plateau. Hein.
Oui, allez-y.
Que le Seigneur vous bénisse.
Amen, allez-y.
Bon, moi, depuis quelques jours de cela...
Évangéliste.
Ouais, mais vrai.
Oui, il semble que votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. Là, si vous pouvez diminuer son volume. Diminuer juste son volume, et là, vous pouvez nous écouter.
Voilà. Je disais que
oui.
Ça fait quelques jours de cela, je suis un peu... je sais comment dire. Je suis tellement déçu du discours de mon père Bawara Sili à Niamtougou. Voilà. Je ne sais pas si c'est le président Fonya Singbe qui lui a dit d'aller dire que c'est lui qui sera le premier ministre au Togo. Non, c'est-à-dire qu'il est temps que les gens, excusez-moi, raisonnent d'une manière, parce que, vous savez, la vie de Paul et Sindon n'est pas entre ses mains. Je voudrais encore le réitérer.
Oui, mais Évangéliste Segor, on n'a pas abordé le sujet dans cette émission.
On n'a pas abordé le sujet.
Non, si vous nous avez suivi, on n'a pas abordé le sujet.
Ok.
Oui.
Donc, je voulais dire tout à l'heure ici que, bon, pour aller se faire aller retirer le cadre de la terre et tout. Vous savez, le Togo nous appartient à tous là. Le Togo, c'est pour nous tous. Nous voulons le bien de cette nation, le Togo. Que la région de Karasuabo, la région de Plateau, tout ça là, que ça, le Togo avance. Donc, ce n'est pas des élections. Le président de la CENI, ceux qui sont aussi là-bas sont des responsables. Ça, c'est que c'est à cause de la population. Bon, là, il donne quelques temps, un petit temps. Alors que, si tu sais, dans les week-ends, les familles qui mettent les gens le temps d'aller retirer leur table. Actuellement, même les gens sont dans le boulot. Au boulot plutôt. Mais comment, monsieur Pascal, comment vous allez comprendre des choses comme ça? Mettons de l'eau dans nos verres. Tout ce que nous faisons sur la terre, il y a un retour un jour, il y a des conséquences, il y a un compte à rendre à Dieu un jour. Aucun pays n'appartient pas à un homme. Je vous remercie.
Mais merci, Évangéliste Senghor, pour votre intervention et vous êtes le dernier auditeur pour le compte lors de cette émission de ce mardi. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Isidore?
Oui, non. Merci beaucoup. Et vous avez vu déjà le sondage. Et les gens n'y croient plus. N'y croient plus aux élections. Et c'est bien dommage pour notre jeune démocratie. Pour Papa Sibiti, je le salue. Mais détrompez-vous. Même si vous avez votre carte 2023, allez vérifier si votre nom se trouve encore sur la liste. Au risque d'être déçu le jour du vote. C'est très important. Ils auraient pu afficher la liste. Et ceux qui ont déjà leur carte puissent aller vérifier. On se retrouve sur le fichier électoral. Ils sont capables de tout.
Alors, sur ce point, Isidore, c'est vrai que cette révision de liste électorale, ça concerne les citoyens ayant égaré ou abîmé leur carte, les citoyens ayant des modifications à effectuer, ou encore toutes les personnes n'ayant pas pu s'enregistrer lors du dernier recensement en raison alors d'indisponibilité ou encore de l'âge requis. Donc, c'est en quelque sorte là, mais la précision que vous...
C'est très important. Je sais de quoi je parle.
D'accord. Eric?
J'ai fait la gouvernance électorale.
Eric? Oui, c'est bon, merci. Isidore. Eric, allez-y.
Allez vérifier.
Merci beaucoup, Isidore. Et oui. Eric, allez-y, rapidement. Vous avez 30 secondes.
Non, je pense que ce sujet-là intéresse beaucoup nos compatriotes. Toutefois, je pense qu'il faut demander quand même aux gens d'aller vérifier leur nom sur la liste électorale et ceux qui n'en ont pas, qu'on puisse la leur établir. C'est très important d'avoir quand même sa carte d'électeur parce que vous vous rappelez, pendant la crise sanitaire à COVID-19, il était question d'un programme Novici où les gens, ils n'avaient pas de carte d'identité, ils n'avaient pas de carte d'électeur, ils n'ont pas pu bénéficier à ce programme de l'État. Et deuxième chose, je pense que c'est vrai, et comme l'a dit un auditeur qui t'a écrit, je pense que oui, on essaie de faire de notre mieux pour que le débat soit à un niveau et donc que les auditeurs aussi nous aident à aller dans ce sens. Ce n'est pas parce qu'il y a des discussions contradictoires que l'on ne comprend pas les choses. On comprend, mais on essaie de mettre le débat à un niveau pour ça puisse être accessible.
Merci Eric, c'est notre désir le plus profond pour cette émission Club de la Presse. Oui, Jean-Baptiste?
Oui, je crois que nous avons fait le tour, mais quand on écoute les auditeurs, je crois qu'il y a vraiment un désir ardent d'avoir une bonne démocratie dans notre pays. Et je crois que nous devons tous construire cette démocratie-là et appeler les institutions à jouer vraiment leur partition. Sinon, ça dit, quand les peuples font des efforts pour asseoir une démocratie et que ce sont ceux qui incarnent les institutions qui mettent les pieds dans les plats, je crois que ça doit être dénoncé dans notre pays. Sinon, à la rue où on font les choses, je crois que les élections ne vont plus plaire aux populations. un mot, un autre mot concernant
rapidement.
Oui, l'intervention du ministre Bawara la dernière fois. Je crois que il y a quand même, nous disons ça chaque fois sur ces plateaux pour dire que on doit, il y a nécessité de mettre sur pied le Conseil supérieur de la fonction publique pour que le recrutement soit vraiment suivi par un certain nombre d'acteurs, mais cela n'a jamais été fait. La dernière fois, il a encore laissé tomber le mot pour dire qu'il insère ses frères dans la fonction publique, alors que ça ne devrait pas être l'apanage du seul ministre, en principe, du seul ministre de la fonction publique.
Merci.
Le statut de la fonction publique dit qu'il faut mettre ce Conseil supérieur de la fonction publique pour que les syndicats, les associations puissent avoir aussi leur mot à dire dans le recrutement.
Je sais que nous avons mené le débat ici.
On a dit ça plusieurs fois.
On va revenir là-dessus. Il n'y a pas de souci. Oui, oui, merci. Jean-Baptiste, merci. Jean-Baptiste, Claude.
Je serai court pour dire deux choses. Je reviens d'abord à la littérature. Je veux dire à Isidore que le critique littéraire, c'est un lecteur profond. Il jette des lumières sur l'œuvre. Il ne casse pas. C'est ça, le critique littéraire. Deuxième chose, je prie ceux qui ont le pouvoir dans ce pays de réparer le Togo. Sinon,
est-ce que le Togo est en panne quand vous
vraiment
dites que...
en panne. Et sinon, un jour, l'histoire va se charger de le réparer. L'histoire a le dernier mot. Tout ce que j'ai à dire.
Merci beaucoup Claude Tissasiobo pour votre intervention. Vous êtes chroniqueur, écrivain aussi, et conseiller littéraire, chroniqueur littéraire bien sûr aussi. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à Eric Pakoudjo-Johnson d'être passé dans cette émission. Eric, vous êtes le directeur de publication du journal L'Union. Merci à Isidore Akolo d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal Atu Express. Merci Jean-Baptiste Atisso d'être passé dans cette émission, directeur de publication du journal Écho du Monde et aussi du site d'information Corps Diplomatique News.tg. Merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. On se retrouve demain, mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission. Merci à Thomas et Tekosida TV qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akouta était à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.